BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie-Cœur de Roy.
Et il est midi sur BFM Business, l'heure des experts de l'IMO. Mais avant cela, un rappel de l'actualité économique du jour et ce regain de tension sur les marchés financiers après la reprise des attaques directes entre Israël et l'Iran. L'ensemble des places boursières sont dans le rouge, y compris le CAC 40. Les prix du pétrole repartent à la hausse avec un baril de Brent au-delà des 97$. Tension également sur le marché obligataire avec un 10 ans français de nouveau au-delà des 3,72% ce midi et un 10 ans allemand au-dessus des 3% ces dernières heures. Et pour la première fois depuis la trêve conclue il y a deux mois, les frappes ont donc repris entre les Israéliens et les Iraniens. Les gardiens de la Révolution indiquent ce midi avoir lancé une attaque contre un site pétrochimique en Israël, en représailles à une frappe sur un site iranien. Un peu plus tôt dans la matinée, l'Iran a tout de même assuré que les efforts de médiation du Pakistan pour mettre fin à la guerre avec les États-Unis se poursuivaient. Enfin, dans le reste de l'actualité, du côté des entreprises, notez cette nouvelle étape de franchie pour le rachat d'SFR. Bouygues, Free et Orange ont officialisé ce week-end le partage des activités de l'opérateur. Une opération à près de 20 milliards d'euros, 8 milliards de la part de Bouygues d'abord, qui va récupérer essentiellement les offres dédiées aux entreprises. Free va mettre 6 milliards pour le bloc Red by SFR, le reste des abonnés mobiles revenant à Orange pour plus de 5 milliards d'euros. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO.
Votre programme avec Bien Ici.
On est bien ici.
Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com. BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner, une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et j'allais démarrer en disant, comme tous les jours, ça démarre par cette séquence, le pro de l'IMO, tout ça. Mais non, pas de pro de l'IMO aujourd'hui, des pros de l'IMO. Du coup, on va avoir un débat à allonger, trois intervenants formidables pour parler d'un des enjeux prioritaires de cette période incroyable des résultats de Parcoursup. Ça y est, la chasse aux logements étudiants a démarré. Il n'y a pas assez de logements étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants. Comment on fait pour s'en sortir dans un tel contexte? Est-ce qu'il faut encore investir dans ce logement étudiant? Ou pour combien? Quel rendement en attendre? Est-ce que c'est vraiment l'avenir, le logement étudiant? On va voir ça tout de suite avec nos super pros de l'IMO du jour.
Les experts de l'IMO, le débat.
En plus, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, Charles. Charles Marinakis, le patron de Century 21.
Bonjour Marie,
Charles.
Ça va?
Et à mes côtés également, Stéphane Briand pour Pulsim. Bonjour Stéphane.
Bonjour Marie.
Et Pierre-Emmanuel Jus de Maslow. Bonjour Pierre-Emmanuel.
Bonjour Marie.
Alors je le disais, on pense à nos étudiants, on pense aux parents de nos étudiants, parce qu'effectivement, on est dans une période un peu complexe où là, on attend les résultats, il y en a qui tombent, il y en a qui ne tombent pas de Parcoursup. Et puis là, du coup, bah, on se cherche un logement. Et là, ça fait un peu plus de 10 ans que je couvre ce secteur de l'immobilier et du logement. Et chaque année, à la même période, on dit que c'est de plus en plus compliqué. Charles, Century 21, gros réseau quand même. Ça va bien là cette année? Ça va mieux? Ça va moins bien?
Non, tout va bien. Mais on va avoir une recrudescence d'appels à partir du 7 juillet avec les résultats de Parcoursup. Donc on sort un guide du logement étudiant tous les ans, fin juin, début juillet, qui colle aux résultats du bac.
Il est de plus en plus épais.
Oui, alors il s'épaissit d'année en année. Et donc là, le prochain sortira le 7 juillet, dans lequel on essaie de guider les étudiants sur les différentes options qui s'offrent à eux. Bien sûr, les résidences étudiantes, les locations meublées, non meublées, les colocations, leur expliquer comment ça fonctionne exactement. Alors, il n'y a pas de solution miracle dans ce guide pour trouver un logement comme ça en claquant des doigts, parce que ça, c'est bien le sujet du moment. Mais en tout cas, on essaie de les accompagner, et puis on essaie de faire ce qu'on peut dans notre contribution. C'est vrai qu'on a beaucoup de logements à louer, donc on est très largement sollicité par les étudiants. Voilà.
Mais attendez, vous dites, on a beaucoup de logements à louer, là, ça y est,
Non, sur la masse, on a beaucoup de logements, parce que vous savez, on fait pas loin de 50 000 locations par an, quand même. Donc, on a une rotation, si vous voulez, dans nos fichiers de logement, sans doute pas assez pour nourrir tous les besoins français. Ça, pour le coup, c'est un secret de Polichinelle. Maintenant, il est admis que, malheureusement, le parc locatif privé s'est asséché. Enfin, on le sait, en partie parce que le neuf est en souffrance et que le neuf, il faut bien comprendre deux choses. Le neuf alimenté, le parc locatif privé, dont le parc étudiant pour 50%, ce qui est d'ailleurs l'investissement locatif pour les étudiants, c'est un des axes majeurs de l'investissement locatif en France. Et la deuxième raison pour laquelle le parc locatif s'assèche, c'est que quand le volume des transactions se réduit, ce qui est un peu le cas en ce moment malgré tout, eh bien la vacance se réduit. C'est-à-dire que les gens qui quittent un logement, qui le louent pour aller faire une acquisition, ben ils restent dans leur logement.
C'est la fameuse rotation en fait.
Exactement, avec des taux de rotation qui habituellement tournent autour de 20 à 23%. et qui peuvent tomber aux alentours de 10-12%. Donc ça restreint d'autant la mise à disposition d'appartements sur le parc locatif privé. Voilà.
Ouais, Stéphane, je vous regarde
avec des grands yeux.
Avec des grands yeux. Bah, j'ai toujours, en même temps, j'ai du mal à les rendre tout petits. Hein. C'est un problème physique. Mais j'ai envie de dire, quand on écoute Charles, on se dit effectivement, il y a de l'offre, il y a des gros réseaux comme Ceinturi, effectivement, ils ont de l'offre, mais est-ce qu'il y en aura suffisamment cette année pour répondre à nos étudiants? Est-ce qu'aujourd'hui, les choses commencent à aller mieux ou on est toujours dans ce moment de frottement et de blocage où effectivement la rotation est. Et en plus, l'envie d'investir.
Non, mais on a une problématique qui est quand même structurelle. C'est qu'aujourd'hui, on a 3 millions d'étudiants et on a seulement entre 380 et 430 000 logements qui seraient dédiés et qui pourraient répondre. Donc, il y a quand même un besoin qui est assez fort et on a vraiment cette problématique structurelle qui revient chaque année.
C'est une pénurie, clairement.
On a aujourd'hui une pénurie. Donc, c'est un schéma qui est compliqué. Qu'importe d'ailleurs le schéma de l'investissement, parce que je pense qu'on va venir dans le détail, mais il y a en effet de l'ancien, il y a le meublé, il y a le nu, il y a les colocations, il y a les résidences étudiantes avec exploitants. Mais tout ça aujourd'hui n'est pas suffisant pour répondre à cette demande qui est critique et qui est structurelle et qui, en plus, ça fait aujourd'hui comme des années qu'on remet le sujet sur la table et qui, pour aujourd'hui, n'est pas encore si bien traité.
Pierre-Emmanuel, Charles disait, on est quand même sur le logement étudiant. À fut un temps, on était très alimenté par ceux qui investissent dans le logement neuf. Et Charles l'a dit, c'est pas la grande joie dans le logement neuf.
Oui, c'est vrai, il y a moins de construction, moins de livraison. Il y a aujourd'hui un projet sur quatre qui est remballé dans les cartons.
Ah, c'est dingue, ce chiffre est dingue. On avait Pascal Boulanger la semaine dernière sur le plateau, c'est quand même assez dingue quand même.
Donc forcément, ça n'alimente pas le marché. Quand bien même, lorsque le marché est alimenté, il faut savoir que les studios, ce n'est pas la majorité des constructions dans une promotion classique sur laquelle on aura de la résidence principale qui va aller du T1 au T5. Hein, c'est entre 10 et 15% des logements, exclut évidemment les résidences services étudiantes où là, 100% des logements sont dédiés pour les étudiants. Un autre chiffre pour compléter qui est intéressant, sur ces 3 millions d'étudiants, il y en a 1,5 million qui va faire ses études en dehors du foyer familial et donc il va se retrouver sur le marché de la location et il n'y a pas de logement dédié pour les étudiants dans le diffus. C'est-à-dire que si je suis jeune actif ou tout simplement célibataire, que j'ai 35 ans, 45 ans ou 22 ans parce que je suis étudiant, je peux être candidat pour le même logement. Et c'est ça aussi qui crée la pénurie de logements sur le marché.
Et on va davantage prioriser peut-être quelqu'un qui gagne un peu d'argent, qui est jeune actif, c'est ça aussi?
Pas forcément. L'idée générale peut-être du propriétaire bailleur, c'est de se dire qu'un étudiant, il va y avoir du turnover, que peut-être il va partir tous les ans. C'est moins vrai, puisque déjà les études sont plus longues. Ouais. Et puis, comme la pénurie est très importante, eh bien, si on peut conserver son logement finalement l'été, plutôt que de se re-rentrer dans un circuit qui peut être plus délicat pour trouver un logement, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'étudiants qui vont garder leur logement 12 mois sur 12. Donc, c'est pas forcément un calcul qui est celui-ci. D'autre part, les étudiants demandent souvent la caution des parents. Donc, entre un jeune actif sur lequel on va faire un calcul des 3 mois de salaire, des choses un petit peu classiques, et bien sur l'étudiant, on sait que c'est papa et maman qui vont payer le loyer ou cautionner le loyer. Et donc, ça sécurise le propriétaire bailleur dans son investissement. Et
justement, Charles, moi j'ai envie de parler. On va se placer du côté de papa-maman. On va se placer du côté, en gros, du locataire et de ceux qui l'aident quand ils ont la chance d'être aidés, ces étudiants aussi. Et puis après, on se placera du côté des propriétaires investisseurs, des propriétaires bailleurs. Mais d'abord, pour le locataire, vous dites... Vous publiez chez Ceinturi tous les ans un guide pour la recherche d'un logement étudiant. Aujourd'hui, comment je peux dire à un étudiant comment il peut mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir trouver le logement qui l'intéresse, séduire le propriétaire bailleur ou l'agent immobilier qui va représenter le propriétaire bailleur? Comment ça se passe et sous quel angle je dois présenter mon dossier, par exemple?
Ben, ça a été plus ou moins dit. Je crois que la préoccupation, on va pas se mentir, des propriétaires bailleurs, c'est d'être payé de leur loyer. C'est quand même le principe de base. Donc, ça veut dire que soit vous avez la chance, et c'est pas le cas de tout le monde, d'avoir une caution significative de vos parents, et c'est le cas d'une grande partie des étudiants. Si tel n'est pas le cas, il faut venir avec une garantie. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, Action Logement fait des choses qui sont bien.
Visal.
Comme Visal, typiquement, que je trouve très adapté aux étudiants. Et le LocaPass pour la partie du dépôt de garantie. Donc, je crois qu'il faut aller se rendre éligible à ce type de dispositif et venir avec un dossier qui confirme votre éligibilité, ce qui est de nature. Visal, typiquement, pour les étudiants, c'est très bien, c'est très accessible et c'est très sécurisant pour les propriétaires bailleurs. Donc, je crois qu'il faut un peu sécuriser son dossier. Il faut faire deux choses. Un, le sécuriser. Deuxièmement, il faut aussi être raisonné et raisonnable sur vos capacités financières. Voilà. Hein, parce que, tu sais, que j'ai été aussi étudiant à Paris. Alors, ça remonte à quelques années.
L'année dernière, Charles.
À peine. Non, mais j'ai occupé un logement dont je me dis qu'aujourd'hui, il serait jugé insalubre. Parce que vous avez un autre sujet, c'est le problème de la décence. Donc vous avez un problème de décence énergétique, de décence financière, et après vous avez un problème de décence tout court qui fait qu'on ne trouve pas de logement pour les étudiants. Moi je vous donne un exemple, j'ai une de mes agences qui a été retoquée sur une annonce, si vous voulez, qui est publiée, je vous l'accorde, assez maladroitement, avec une chambre de bonne sous les toits, ce qui est courant à Paris malgré tout. Alors si vous prenez la loi Carrez, elle fait 6,5 mètres carrés, ça veut dire qu'elle n'est pas louable. Exactement. Elle est en dessous de la décence locative. La réalité, c'est qu'elle fait 12,5 mètres carrés au sol. Et donc c'est le facteur des combles, si vous voulez, qui par le métrage la rend inéligible. Mais en réalité, ça fait 20 ans qu'elle est louée à des étudiants. Eh bien, on s'est fait accrocher aujourd'hui par la DGCCRF sur ce sujet-là et par le député de Paris bien connu en charge du logement, M. Yann Brossa, qui a levé les mains au ciel en expliquant qu'on était les plus grands voyous de la Terre parce qu'on louait une chambre qui fait 6 mètres carrés 50. Donc on va évidemment la retirer de la location, alors que quelque chose qui est admis depuis 20 ans. Voilà un logement de moins qu'un étudiant ne trouvera plus sur le parc locatif.
Après, on est d'accord quand même, Charles, que... vous me cherchez, hein, mais...
Non, mais c'est pas le sujet, mais...
Bon, il y a des règles, hein, quand même.
Mais moi, j'ai pas de sujet avec ça. La règle, on va la respecter. Je vous dis juste qu'à un moment donné, de contrariété en contrariété, ouais, de réglementation en réglementation, on ne fait qu'assécher le parc locatif.
Certes,
moi, je dis pas que c'est bien... Non, mais ce que je dis, c'est que, vous voyez, entre 6 mètres carrés, loi Carrez, et la réalité de 12,5 mètres carrés, moi, quand je suis arrivé à Paris, j'ai habité dans une chambre de bonne qui faisait 17 mètres carrés, sous mansarde. Et je pense qu'aujourd'hui, elle ne serait plus éligible.
17, voilà. Quand même, il faut vraiment...
Mais en surface utile, après. Ouais.
Non, mais parce qu'en fait... Non, mais
exactement, ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait avoir un raisonnement un peu différent.
Oui, mais derrière cette idée, moi, j'ai toujours un gros problème. Et ça, je sais que les auditeurs et les spectateurs ont l'habitude. Je suis l'éternel, ou peut-être pas éternel, locataire, sait-on jamais.
Tout peut arriver.
Tout peut arriver, sait-on jamais. Mais le fait est qu'effectivement, il y a des règles aussi, parce que cet argument de dire « mieux vaut un logement pas top plutôt que pas de logement du tout », c'est un peu gênant quand
non,
même.
Non, mais il n'y a pas top et pas top, vous voyez, là-dedans. On ne va pas rester deux heures sur cet exemple-là. Mais factuellement, mon voisin a raison, la surface utile, elle est 12 mètres carrés 50, donc elle devient décente à louer. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est juste les techniques de métrage qui les mettent à 9 mètres carrés.
Si je peux me permettre, et je rejoins les propos, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, on applique des nouvelles lois, des nouvelles contraintes, des nouvelles réglementations. Alors, il en faut. Il faut quand même que tout le monde puisse se loger dans un logement décent. Néanmoins, et compte tenu de l'état du parc locatif aujourd'hui, voilà, je pense qu'il y a quand même des compromis à faire. Et l'idée, c'est d'aller dans les deux sens, à la fois d'améliorer la quantité.
Bah, enfin, il y a le sujet du tarif derrière aussi, quand même. Hein. Parce que moi je vois toutes celles et ceux alors qui vont respecter. Non, mais parce que c'est un vrai sujet aussi. C'est derrière combien je vais louer aussi cette chambre de bonne. Je connais un grand spécialiste qui aime racheter des chambres de bonne alors qu'il les pimpe vraiment super bien, mais qui du coup pratique des loyers qui sont vraiment dans des proportions.
Décorrélé des étudiants pour le
coup. Ben oui, mais donc c'est ça le sujet. Comment j'arrive
C'est pas le cas de tout le monde quand même. Enfin, il y a aussi des gens qui dans Paris ou ailleurs d'ailleurs, même en région parisienne ou dans de grandes. Ouais. En fait, le problème, c'est que les études, ça se passe où? Dans les grandes métropoles françaises.
Oui.
Il n'y a personne ne va faire des études. Non, mais c'est la réalité. Donc, à un moment donné, quand vous êtes dans les grandes métropoles françaises, ben, vous tombez sous le coup de la pénurie locative que vous expliquez, que tout le monde explique, et sous le coup des contraintes de la décence. Voilà. Donc, c'est un vrai sujet.
Bon, alors justement, puisqu'on parle du lieu, parce que effectivement, on rappelle les règles en immobilier, hein, l'emplacement. Ouais. Pierre-Emmanuel, vous avez regardé, j'ai regardé chez Maslow, vous avez publié un communiqué il y a quelques jours que je trouvais assez passionnant sur où est-ce que je peux investir dans un logement étudiant pour moins de 150 000 euros. J'imagine qu'il n'y a pas Paris.
Il n'y a pas Paris.
Comme ça.
Dommage.
Non, parce que c'est le sujet aussi, c'est de se dire effectivement où est-ce qu'on va faire nos études et précisément où est-ce que moi je vais pouvoir investir. Alors, pour répondre à la demande.
Il n'y a pas Paris intramuros, mais toutefois, il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, les étudiants, en moyenne, Paris et province confondus, mettent 44 minutes à aller sur leur lieu d'études.
Et encore, ils ont de la chance, moi je mets une heure pour aller mon travail.
Qui est important. Donc aujourd'hui, en région parisienne, vous n'avez pas besoin de rentrer sur Paris pour faire vos études, puisque les universités sont plutôt ailleurs. Donc voilà, vous pouvez vous retrouver dans un rayon de 30 minutes autour de votre logement,
ouais,
avec 30 000, 60 000, 90 000 places d'études. Donc aujourd'hui, sur ce budget à moins de 150 000 euros, évidemment que l'on...
En Ile-de-France,
En Ile-de-France, évidemment, bien desservie par les transports. En tous les cas, nous, chez Maslow, nos clients, c'est vrai qu'ils sont souvent sur leur premier investissement locatif, donc leur budget est contraint. Ils vont voir le banquier, le courtier, qui va leur valider un budget aux alentours de 150 000 euros. Et après, nous, on est là pour sécuriser leur investissement. Donc effectivement, investir dans une grande ville, c'est plutôt sécurisant. Sur un marché locatif qui est profond, 1 500 000 étudiants qui doivent être sur le logement non dédié et papa et maman qui payent le loyer ou cautionnent le loyer. Donc ça, c'est des verrous de sécurité qui peuvent rassurer. Et effectivement, on peut regarder les villes sur lesquelles le prix mètre carré est intéressant, le loyer aussi, nu ou meublé.
Alors c'est vrai que sur les l'étudiant, on est plutôt quoi dans du meublé là a priori. Hein.
Les petites surfaces sont plus adaptées au meublé qu'au nu d'une manière générale. Si on se met du côté du propriétaire bailleur, le loyer est supérieur en meublé qu'en nu, donc il a plutôt intérêt. Je vais acheter le même prix mon appartement. Évidemment, il faut que je mette des meubles dedans si je suis dans le diffus, mais je vais louer quand même plus cher mon appartement. Donc souvent, le rapport qualité-prix, c'est-à-dire rentabilité versus acquisition des meubles ou location meublée est quand même intéressante pour l'investisseur.
Surtout, ça fait l'affaire de tout le monde. Pardon, ça fait l'affaire de tout le monde. C'est bien les meublés pour les étudiants.
Oui, pour les étudiants.
Ça évite de faire des investissements.
Charles, il me connaît parce qu'il me regarde. On est d'accord, c'est bien le meublé pour les étudiants.
Mais c'est vrai.
Un jour, on fera un autre débat sur les logements familiaux.
Là où Stéphane a raison, c'est que les étudiants, à l'époque, quittaient leur logement en juin et en reprenaient un nouveau en septembre.
Et là, ils y restent.
C'est fini, ils y restent.
Oui, parce qu'ils ont peur de le perdre aussi. C'est ça qui. Mais alors, attendez, juste rapidement, quand même, Pierre-Emmanuel. Donc, sur les villes, une fois qu'on a dit ça. On a regardé les villes. Lille, Le Mans, il y a beaucoup d'étudiants au Mans.
14 000.
Ah ouais. Caen, Brest, Rennes, Bordeaux, Montpellier, Toulouse, Angers, Strasbourg. Ça, c'est les villes que vous avez identifiées en disant pour moins de 150 000 euros, je peux faire un investissement pertinent dans le logement étudiant.
Sur les villes sur lesquelles on a également pris les stats du ministère de l'Enseignement et de la Recherche, pas seulement Parcoursup, pour voir la croissance des étudiants entre 2021 et 2024. Donc si on prend Lille, c'est plus 11% d'étudiants. Aujourd'hui, vous avez plus de 60 000 étudiants à Lille. Donc 60 000 étudiants à Lille, un ticket d'entrée aux alentours de 3 500 euros du mètre carré. Donc évidemment, sur ces surfaces-là, ça fonctionne en dessous des 150 000 euros. Le Mans, c'est plus 6% entre 2021 et 2024. Il y a 14 000 étudiants au Mans, et c'est une ville qui est pas très chère. C'est moins de 2 000 euros du mètre carré. Et Caen, que je connais bien, c'est ma ville natale, ma ville préférée, forcément. C'est 7%
d'évolution.
Exactement. L'agglomération, l'Académie de Caen, c'est 37 000 étudiants, et on rentre à moins de 3 000 euros du mètre carré sur le marché. Dans l'ancien, dans le diffus. Donc, sur ces villes-là, on a une sécurité locative, un accès et un ticket d'entrée qui peut être pertinent dans la réflexion pour l'investisseur.
Stéphane, même analyse aussi. Je vous avais demandé de regarder les secteurs intéressants pour investir.
Moi, je suis peut-être moins intéressé sur la partie...
Normand.
J'ai fait les deux. Il peut y avoir un débat, mais on ne va pas le lancer aujourd'hui. Non, mais moi, je suis plutôt intéressé sur l'ancien, avec en plus le double regard qui est un logement, je dirais, classique, qu'on peut tout à fait louer en nu ou en meublé, mais également... les résidences étudiantes, et on va y revenir sur la partie exploitant. Nous, on a plutôt retenu, je dirais, ces grandes villes et ces grandes métropoles. Forcément, Toulouse ressort en tête sur plein d'aspects, à la fois le différent campus, le nombre d'étudiants, la profondeur au niveau du marché économique au travers de l'aéronautique et l'aérospatiale. Enfin, il y a tout un tas de raisons. Aujourd'hui, je trouve que Toulouse est vraiment un bon compromis entre le prix d'acquisition et la profondeur du marché et l'offre locative qui est vraiment très faible. Je crois qu'on est aux alentours des 100 000 étudiants si on intègre Toulouse et son agglomération. Et puis ensuite, on va citer des grandes villes que quasiment tout le monde connaît. Ça va être Lille, ça va être Rennes, ça va être également Montpellier. Et c'est vrai que Paris va être assez atypique, parce que la demande est quasiment infinie. On est sur un loyer à peu près moyen aux alentours des 900-950 euros pour un logement étudiant. Maintenant, est-ce que véritablement c'est considéré comme un bon investissement? La question se pose. Après, il y a une approche patrimoniale. C'est vrai que les chiffres, c'est une chose. Le patrimoine en est une autre. C'est pour ça que voilà, ça va dépendre aussi du budget. Mais c'est sûr que sur l'étude à moins de 150 000 euros, forcément, Paris en est exclu. Je n'ai pas cité Lyon d'ailleurs aussi, forcément, bien souvent, est classé deuxième, troisième. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur ces grandes métropoles...
Mais parce que les prix sont élevés.
Les prix sont élevés, mais il y a aussi une approche patrimoniale. Il faut savoir qu'il faut quand même distinguer les deux d'un logement classique versus un logement au sein d'une résidence étudiante. Généralement, on peut être sur des prix qui peuvent être inférieurs. On va pas comparer le neuf et l'ancien, mais là aussi, on est sur une mécanique d'investissement qui est là aussi différente.
Charles, vous conseillez aux gens, là, à vos propriétaires bailleurs, de faire du logement étudiant, de louer à des étudiants? C'est un conseil qu'on peut leur donner aujourd'hui?
Franchement, je ferais c'est un conseil que je pourrais donner sans hésitation. D'abord parce que si on doit faire un investissement locatif, il faut le faire de manière utile. Quand vous avez des enfants qui font des études et qui sont délocalisés, je trouve que c'est le bon moment de faire un investissement locatif. Donc je ne pourrais que leur faire cette recommandation avec toutes les sagesses et les prudences qui viennent d'être expliquées par mes confrères. Et puis moi, vous savez, je suis convaincu que faire de l'investissement locatif, c'est un acte civique. Voilà, je Je pense qu'il vaut mieux mettre son argent dans l'immobilier. D'abord, c'est un investissement qui est, l'expérience le prouve, depuis 25 ou 30 ans, extrêmement sécurisé.
C'est le seul qu'on peut faire à crédit, d'ailleurs.
D'ailleurs, c'est le seul qu'on peut faire à crédit. Et puis, c'est bien plus civique que d'aller acheter des actions du CAC 40, qui d'ailleurs n'ont pas besoin de nous. Et au moins, c'est utile. Et je connais peu de gens, sur les 25 ou 30 dernières années que j'ai passées dans l'immobilier, qui aient perdu de l'argent dans ce type d'investissement. Voilà. Donc, je crois que ça peut être un facteur déclenchant quand vous avez votre fils ou votre fille qui va faire des études, de faire un investissement. Voilà. Après, 150 000 à Bordeaux, je ne suis pas sûr que je le trouverai dans mon portefeuille. Mais vous avez raison, des villes comme Caen, des villes comme Le Mans, effectivement Angers, qui est la première ville de France pour la douceur de vivre. Moi, ce que je voudrais juste signaler, vous voyez, de l'importance du logement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'issue de Parcoursup, vous avez certains étudiants qui choisissent une école plutôt qu'une autre.
Parce qu'il n'y a pas de logement.
Exactement. Parce qu'en fait, ils n'ont pas les moyens de se payer un logement. Moi, j'ai vu un étudiant refuser une école à Nice dans laquelle il était admis, d'accord, pour aller finalement à Toulouse, parce qu'à Toulouse, les conditions locatives étaient plus accessibles financièrement qu'elles ne l'étaient à Nice. Voilà. Et c'est ça qu'il faut retenir, qui est très important, c'est que le choix du logement aujourd'hui peut influencer la carrière de votre fils ou de votre fille en matière de choix d'école. C'est un peu dommage, intellectuellement,
mais
c'est un peu inquiétant. Voilà.
Mais du coup, je vous ai posé cette question-là et c'est hyper intéressant parce que, en fait, avant que vous arriviez toujours hors antenne, je vous dis chaque fois un truc, mais parce que, effectivement, avant de descendre, dépêche de l'Agence France Presse qui tombe sur un chiffre de l'INSEE, moi, qui a retenu mon attention. En 2070, les plus de 65 ans pourraient être deux fois plus nombreux que les moins de 20 ans en France. Alors, évidemment, on n'est pas tout de suite là en 2070, mais enfin, le fait est qu'on parle du vieillissement de la population, du choc démographique avec la dénatalité. Aujourd'hui, il y a plus de cercueils que de berceaux. C'est pour ça que je vous posais la question, Charles. Oui, aujourd'hui, les besoins sont considérables et on est en pénurie totale sur l'offre de biens dédiés à ces étudiants. Et oui, ça peut réorienter des carrières, des vies en général. On est d'accord. Mais est-ce que pour l'investisseur locatif, est-ce que c'est vraiment le bon plan aujourd'hui d'investir dans ce logement étudiant? Est-ce que le sens de l'histoire, c'est pas plutôt d'investir dans des logements seniors, par exemple, messieurs?
Alors, la profondeur de marché est telle, oui. Aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure sur les chiffres, 1 500 000 étudiants qui recherchent un logement et pas de logement dédié. Donc on va vivre plus vieux et en meilleure santé, tant mieux Marie, c'est une bonne chose. Aujourd'hui la courbe démographique elle s'inverse un petit peu, on ne fait pas assez d'enfants. Pour autant, la croissance des étudiants elle continue à progresser. Vous avez plus 53 000 étudiants par an sur les 10 dernières années. Pourquoi ? Parce qu'on fait aussi des études plus longues. L'accès aujourd'hui au marché du travail c'est Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5. Et donc, on fait des études plus longuement. Donc, voilà, on donne toujours le bac à 700 000 lycéens aujourd'hui. Qu'on le donne à 720 000 ou 680 000,
on le donne.
Ça changera pas grand-chose.
Non, mais pour ceux qui passent leurs épreuves la semaine prochaine, franchement, non, on le donne pas.
Aujourd'hui, c'est les prix de français, hein, pardon, si je m'abuse, mais...
Ouais, c'est ça. Il y a des grosses épreuves la semaine prochaine. Ouais. Mais le fait est qu'en fait, voilà, ma question, elle est là, et de se dire. Et d'ailleurs, Stéphane voulait parler des résidences dédiées aux étudiants, parce qu'en fait, elle est là.
D'ailleurs, deviennent de plus en plus hybrides, à la fois en mélangeant les jeunes actifs et les étudiants, mais également, il me semble qu'on en a parlé le mois dernier ou le mois d'avant, je ne sais plus.
L'intergénérationnel, il m'en parlait aussi
qui
d'ailleurs.
Fonctionne très très bien, et qui,
moi, je trouve ça
bien. Bah moi aussi, le principe est top, surtout pour nos seniors. Ça leur amène du service, de la vie. Et finalement, on vient répondre à deux problématiques, qui est loger nos jeunes et aussi loger nos seniors, sachant que, ça on le sait tous, il y a une vraie problématique.
Il y avait la chambre à l'époque, alors ça fait un peu ancêtre quand je raconte ça, mais moi je sais que certains de mes petits camarades de classe, il y avait des chambres, on louait des chambres chez les gens. Donc on avait une chambre, quand j'étais étudiant.
Chez l'habitant, oui.
On avait une chambre chez l'habitant. On pouvait soit avoir effectivement une chambre de bain, mais moi j'avais certains de mes copains qui louaient une chambre chez l'habitant. Et en général, chez des couples, parfois des gens un peu âgés, qui étaient ravis d'avoir un peu d'énergie, etc. Alors, pas de faire des booms jusqu'à 4h du matin.
Mais booms surtout, oh non, Charles.
Ah ouais, c'était une bonne époque, ça. Il y avait des slows encore à l'époque, c'était bien. Mais honnêtement, je vais vous dire, ben ça faisait de la vie, et c'était, franchement, c'était un combo, enfin un contexte que je trouvais... Si on arrivait à reproduire ça, je trouve que la notion d'intergénérationnel, c'est quelque chose de fantastique, parce que nos personnes âgées, d'abord, ils veulent pas quitter leur domicile. Voilà. Il faut bien comprendre que les gens veulent vieillir chez eux, c'est un fait, c'est comme ça. qu'aujourd'hui, on peut leur donner, d'ailleurs, je crois que c'est le dispositif public, c'est plutôt d'encourager ce phénomène-là. Donc, il y a des dispositifs de financement, d'aide et d'accompagnement pour aménager,
adapter
les logements aux personnes âgées, y compris ceux qui pourraient avoir un handicap mineur ou majeur. Et donc, ça, c'est bien. Et je trouve que ce dont souffrent nos anciens, c'est d'isolement et de solitude. Voilà. Et si on pouvait rompre un peu leur isolement et leur solitude avec des jeunes étudiants qui viennent leur égayer un peu leur journée, je trouverais ça sympa. Voilà.
Si je peux me permettre, Marie, sur les résidences services étudiantes, c'est un marché qu'on connaît bien chez Masso, parce qu'on fait partie d'un groupe qui a un gestionnaire de résidences étudiantes qui s'appelle LBA, Les Belles Années. On gère 11 000 logements, donc c'est un marché qu'on connaît très très bien. L'intergénérationnel, en tous les cas, il y a quand même un bémol, c'est que aujourd'hui, les étudiants, ils veulent être aussi entre eux, chez eux. On a du mal à mélanger aujourd'hui des jeunes filles de 20 ans et des jeunes actifs de 30 ans.
Oh, il m'a montré en disant ça.
Non, des jeunes filles de 20 ans et des jeunes actifs de 30 ans. Donc nous, on croit beaucoup à la résidence dédiée 100% aux étudiants. Et puis il y a la solidité de l'exploitant, tu l'as indiqué, ça c'est important. Aujourd'hui, parfois, quand on fait le mélange entre la résidence étudiante et puis de la résidence de tourisme d'affaires, en fait, c'est pour les exploitants gagner le marché auprès des promoteurs, puisqu'on va louer plus cher à la nuit que louer au mois. Et finalement, ce marché-là, il est un poil plus incertain, ou en tous les cas, certains ont connu des défaillances sur les trois dernières années. Donc le fait d'avoir un exploitant qui soit 100% dédié étudiant, où on ne mélange pas des jeunes de 20 ans et des jeunes de 35, c'est aussi une sécurité.
Ouais. Je suis désolée, j'aurais aimé. Ouais, mais Charles, tu peux pas, j'ai pas le droit. Il y a le jingle de l'émission qui est parti, et il y a Alban dans l'oreillette qui me dit Marie, c'est terminé. Mais c'était passionnant, mais oui, mais on fera un sujet. Et sur les... Mais en fait, on a bouclé la boucle, je trouve, dans cette émission.
C'est vrai que les seniors, ça a bien d'en parler, tu vois.
Mais on a bouclé la boucle. On a bouclé la boucle et la prochaine fois vous venez, on parle de ce marché du senior parce qu'il y a un vrai sujet aussi de le maintien à domicile et de comment on fait. Et je sais que Antoine Larigauderie dans l'émission précédente parlait de la grande transmission. Il y a un vrai sujet autour des seniors et cette boucle, on la boucle. Et je suis désolée, Charles Marinakis, président de Century 21, j'aurais aimé que ça dure deux heures. Mais oui, revenez, mais tout comme Stéphane Briand, le directeur du développement de Pulsim, et Pierre-Emmanuel Jules, le directeur délégué de Maslow. Merci à tous les trois d'avoir été avec moi. Désolée, c'est toujours trop court cette émission. Alban, il faut qu'on ait une heure d'émission. En tout cas, les experts de l'IMO reviennent demain sur BFM Business.
Merci, bonne journée.
Les experts de l'IMO sur BFM Business.